Salut Luc!
Salut!
T'es-tu pompé?
Non, pourquoi?
Ah, ben j'aime ça quand t'es pompé.
Ah ouais, mais il n'y a rien de pompant de ce temps-là.
Ben là, voyons, tu vas me parler du rapport des militaires canadiens sur la situation des CHSLD ontariens.
Oui, bon,
il y a de quoi être pompé, là.
Oui. Ben oui, parce que c'est effectivement... Les éléments décrits sont fâchants. C'est au-delà de la surprise habituelle, là, comme par exemple une personne qui tombe par terre puis qu'on ne ramasse pas. Tu sais, c'est l'exemple qui avait été donné par Doug Ford lorsqu'il a été pris connaissance du rapport. Il y avait les larmes aux yeux. C'est pas la première fois. Des gens qui n'étaient pas lavés, pas nourris, etc. En même temps, est-ce que c'est une surprise? Je veux dire, on a eu des rapports journalistiques de cette nature-là aussi qui ont précédé le rapport de l'armée, et ça disait exactement mot pour mot la même chose. Donc, de voir Doug Ford et Trudeau à l'unisson dire « Oh mon Dieu, quelle surprise », c'est aussi une façon de se distancer de l'état de la situation. Mm. Mais ça reste quand même que c'est une surprise parce que c'est tellement dégradé comme situation qu'il y a des exemples terribles. Mais il y a aussi, il faut comprendre, là, on parle d'institutions qui avaient été abandonnées par des personnes qui sont normalement en poste. C'est pas le fonctionnement normal de l'institution. Pour savoir qu'est-ce qui se passe d'habitude dans une institution, le rapport de la protectrice du citoyen qui va être lancé au Québec devrait nous en donner beaucoup plus. Parce que il ne s'agit pas de dire, ben, quand il n'y a pas d'employés, les personnes ne sont pas nourries. On s'y attendait. Mais quand ils sont présents, ils sont nourris comment? Puis comment se fait le triage? Puis comment c'est quoi le temps dont dispose chaque employé avec la personne? Comment se fait la répartition de la charge de travail aussi? Mm. J'entends des histoires d'horreur comme, c'est un peu comme l'école bleue. Il y en a une qui donne les pilules, il y en a une qui lave, l'autre qui donne le repas. Mais si celle qui donne le repas se rend compte que les pilules n'ont pas été données, dans certains cas, elle ne les donne pas. D'autres fois, on entend des rapports complètement contraires en disant non, il y a certaines maisons où c'est bien tenu et où il y a une sollicitude et où s'il y a des requêtes qui sont faites par le bénéficiaire, la personne y répond même si ce n'est pas sa tâche. Alors, il faut aller au fond des choses, il faut savoir exactement quand est-ce que ça ne va pas, où ça ne va pas. Par exemple, on nous dit beaucoup que c'est à cause de l'absentéisme que ça ne va pas. Parce que quand il y a de l'absentéisme, la personne devrait se présenter le soir, on demande à la personne qui est présente de faire un autre shift de 8 heures. Et là, ce shift-là, ce quart de travail-là, la personne est épuisée. Donc, aller au fond des choses dans le fonctionnement normal, dans le fonctionnement quotidien des CHSLD, puis déjà, en temps normal, il y a plein de choses inacceptables.
Mais, Luc, je pense qu'il ne faut pas faire abstraction du fait que ce ne sont pas des emplois qui sont valorisés. Ce ne sont pas des emplois où tu vas là-dedans puis tu te dis, sais-tu quoi, oui, ça va être dur, mais comme... je sais que je ne vais pas faire un burn-out parce qu'on est assez de monde. Je sais que je suis suffisamment bien payé, ça va compenser. Mm-hmm. Tu le sais que quand tu t'en vas dans ces métiers-là, dans ces endroits-là, ben souvent, tu risques de t'épuiser parce qu'il manque de bras. Puis en plus de ça, tu n'es pas super bien payé. Tant qu'on ne va pas pallier ces deux affaires-là, on va avoir les mêmes problèmes.
Exactement. Tu sais, je disais ce matin, je m'excuse de le répéter pour les auditeurs qui ont écouté aussi l'émission de Paul Arcand, quand tu fais l'analyse du travail d'École Bleue, puis tu te rends compte que quand il y a une tâche intéressante, le travail est exécuté à peu près en même pourcentage de la répartition que tu as dans la population. Il y a 30% des gens qui travaillent bien, 30% des gens qui ne sont pas bons, puis 30% des gens qui sont moyens. Mais si tu leur demandes une tâche qui est à la fois répétitive, aliénante, difficile à faire, si tu leur demandes d'enlever des pissenlits avec une fourchette, bien c'est 70% des gens qui ne sont pas bons. 15% qui sont bons, 15% des gens qui sont moyens. Puis si tu vas faire la même mesure 100 jours plus tard, mais là, tu es rendu à 90% des gens qui sont pas bons. Mmh. Parce que personne ne peut faire ça à long terme, jour après jour, avec de la qualité, si en plus, il n'est pas bien payé. Là, l'augmentation salariale qui est proposée dans la dernière offre qui va être déposée, que le gouvernement va déposer, on propose d'augmenter de 12% avec un maximum salarial en fin de carrière à 25 $ de l'heure. Bon, c'est déjà mieux qu'avant, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont payés 18 $ de l'heure. Ben, je pense qu'il va préférer être serveuse dans un restaurant plutôt que d'aller dans un CHSLD.
Et Luc, pas juste ça. C'est pas qu'une question de salaire. T'sais, spontanément, on se dit, si t'es bien payé, tu vas le tolérer. Pour avoir parlé, par exemple, à des infirmières, tu peux leur donner 150 000 $ par année. Si elle est encore tout seul pour 62 patients une nuit,
ben oui,
elle va quand même faire un burn-out, se sentir inadéquate, puis brailler à la fin du chiffre. Que tu sois dans les mêmes conditions pour 150 ou 75, écoute, il y a peut-être une portion de la population qui va dire « c'est tellement bien payé que je vais rester ». Il y a plein de monde qui va se dire « non, ça ne vaut pas la peine ».
Je sais. Et moi, je ne suis pas tout à fait désespéré. Je pense qu'il y a des métiers qui sont extrêmement difficiles puis qui réussissent quand même à garder une partie de leurs clients, de leurs employés. Les centres d'appel. Les centres d'appel, là, au téléphone, il y a deux types de centres d'appel. Ceux qui reçoivent les appels clientèle, c'est une chose, mais ceux qui doivent constamment faire de la sollicitation téléphonique, par exemple, ou du recouvrement pour aller chercher de l'argent, des personnes qui te demandent, qui ne veulent rien savoir, qui ne te répondent pas, qu'il faut te rappeler quatre fois. Bon, ça existe des jobs super plates. Et là, il y a
des... Mais tu dis que dans les centres d'appel, ils gardent leurs employés? Je pensais qu'il y avait un bon roulement.
Écoute, c'est effrayant. Okay. Et c'est effrayant comment ils les perdent, parce qu'en plus, ils ne les payent pas, tu sais.
Okay.
Mais il y a des centres d'appel, par exemple, centres d'appel de recouvrement d'Hydro-Québec. Eux, ils les gardent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils les payent? Comment ils les mobilisent? Comment ils les motivent? C'est quoi les pauses? C'est quoi les vacances? C'est quoi aussi la reconnaissance de la performance? C'est que là, tu fais rentrer des gens. D'ailleurs, la personne que tu fais rentrer, c'est une personne qui travaille dans une agence puis qui vient une fois de temps en temps. C'est pas la même à chaque fois. Puis l'autre, donc il n'y a pas de travail d'équipe. Ensuite de ça, cette personne-là, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, elle va avoir le même salaire. Fait que toi, si tu te forces, tu n'es pas payé en plus. Alors, comment on pourrait reconnaître la performance? Puis une partie de la performance aussi, qui est d'une performance informelle. La personne qui parle au bénéficiaire, la personne qui en prend soin, la personne qui va au-delà de sa tâche habituelle. Tout ça, là, c'est une analyse de la tâche que ça prend. Pas une esthétique de progrès, d'analyse de consultant sur la réorganisation des CHSLD. Donc, une analyse de la tâche et de la performance qu'on peut apporter à cette tâche-là. La qualité, l'enrichissement de la tâche. Il y a un mot aussi, c'est le empowerment, empuissanter. Empuissanter les intervenants, leur donner la capacité de faire des interventions qu'on ne leur a pas demandé, mais qu'ils jugent important de faire au moment où ils le font. Tout ça, ça rentre dans la définition d'une tâche intéressante. Je pense que certains CHSLD y arrivent déjà. Donc, il faut répartir ça à tout le monde.
Empuissanter.
Empuissanter.
OK, j'aime mieux ça qu'en pisseter. OK, prends deux minutes pour me parler de culture. Là. On sait qu'il y a beaucoup de grogne dans le milieu culturel, artistique, par rapport à ce qui est décrit comme un manque de leadership de la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
Oui, la ministre de la Culture, bon, effectivement, il y a deux choses. Premièrement, il faudrait qu'elle les rencontre, il faudrait qu'elle discute avec eux. Ils n'en demandent pas tant. Ils savent qu'il ne va pas avoir de réouverture au printemps ou à l'été. Ils veulent savoir quand à l'automne. Donc, déjà, ils sont ouverts et gentils et sympathiques. Là. Alors, pourquoi ne pas s'asseoir avec eux pour dire « oui, il faut qu'on trouve une solution ». Maintenant, ce ne sera pas une vraie solution. Parce que en automne, ça va dépendre du nombre de la contamination. Est-ce que la contamination est encore avec les chiffres qu'on voit de ce temps-là ou est-ce qu'elle a vraiment baissé? Est-ce qu'une deuxième vague s'en vient, etc.? Alors là, évidemment, les questions vont devenir de plus en plus difficiles. La culture, c'est deux fois l'agriculture en termes de PIB et en termes de personnes. C'est 140 000 personnes, 14,5 milliards de PIB. Donc ça veut dire que si tu décides de soutenir ces individus-là pour pendant, mettons que la crise dure un an, là, mettons que tu dis qu'il n'y aura pas de salle, de personnes dans les salles de spectacle pendant un an, c'est 3,5 milliards de dollars. C'est trop d'argent. Ça ne marche pas. Et donc, et si tu décides de soutenir juste la production culturelle, c'est autour de 100 millions de dollars. Donc, c'est des énormes sommes. Personne n'est préparé à donner ces sommes-là. Il y a une crise qui risque de durer. Si tu donnes cette somme-là, mais que tu sais qu'au bout de cette année-là, ça y est, ça repart, tout va bien, puis tu as réussi à soutenir de la production, puis des gens sont venus dans les salles de spectacle. Mais est-ce que les gens vont venir dans les salles de spectacle? En Chine, ils ont réouvert les cinémas, il n'y a pas un chat qui est allé au cinéma. Donc, toutes ces questions-là se posent, mais au moins, et les solutions ne sont pas évidentes, et les solutions, il y a des risques le long de la route, il y a des coûts qui sont importants. Ça n'empêchait pas la ministre de rencontrer ces gens très performants et de discuter de ces chiffres-là et des pistes. Parce que tu peux dire au moins, ben, on n'ira pas dans le 3,5 milliards, mais on va soutenir la production à 40 millions, par exemple. Et comment ça se fait que ça n'a pas été fait? Je suis d'accord avec le milieu culturel.
On s'en reparle. Merci, Luc.
Merci à toi.
17h23, on a appris le mot « empuissanter ». Pas sûr que c'est une bonne traduction de « empowerment », mais c'est comme donner du pouvoir à des gens. C'est la traduction. « Empuissanter », ouais, j'aime ça. 17h23, au retour, Pierre-Yves McSween est là. On va parler de ce prêt de 200 millions américains du gouvernement du Québec au Cirque du Soleil.